Ce cours est dédié à la refoua shlema et la tshuva de Sulika Saragila Bat Miriam.
Amen. Amen.
Il y a un sujet qui est très plaisant à traiter. C'est le mariage. Et il est évident, chaque bonne chose qui est réellement bonne demande préparation. Donc un mariage, ça se prépare non seulement pour trouver le traiteur et la salle de mariage, et la robe de mariée, et la couleur des fleurs de la mariée et des cartes d'invitation, mais surtout ce qu'est le mariage sont essentiels. Un bon juif, aujourd'hui en tout cas, pour arriver prêt au mariage, doit faire une formation sur 4 sujets. Premier sujet, Ilhot Nida, les lois de pureté familiale, qui sont compliquées. C'est une chose tout à fait nouvelle. Et si on n'apprend pas bien et lentement, ça devient une vraie salade niçoise. Et on joue avec le feu, parce que l'interdit de Nida, c'est un interdit de karet qui est très grave. Donc il est essentiel d'avoir une formation à ce sujet. On la commence le plus tôt possible, parce que nous savons que les 3-4 semaines avant le mariage, on n'a plus le temps d'étudier. On est dans les meubles, on est dans la maison, on est dans la robe de la mariée, on n'est pas dans l'étude. Donc toujours on arrive au mariage, très souvent on arrive au mariage pas prêt, croyant qu'après le mariage on va étudier, et après le mariage qu'il y a le temps d'étudier, et patatras, là les malheurs commencent. Deuxième sujet, tout aussi essentiel, c'est un sujet qui n'était pas traité les générations passées, mais aujourd'hui c'est devenu tout à fait essentiel, c'est Shalom Bayit. La paix à la maison. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Comment ça fonctionne? Il faut expliquer à la femme, parce qu'elle ne comprend pas très bien.
C'est ça.
Absolument. Pourquoi un homme, si la prière est à 7h du matin, à 7h, il est encore dans son lit? Elle ne comprend pas une femme. Il faut l'expliquer. L'homme est paresseux de nature. Alors, c'est vrai, on m'avait dit ça. Ce qui n'est pas une bonne excuse pour l'homme de pas se lever. Mais au moins, ça atténue le choc.
Les femmes aussi sont paresseuses.
Les femmes, il y a d'autres choses que sur les femmes, d'accord? Pourquoi tout d'un coup on entend un hurlement terrible dans la cuisine et le mari court et croit qu'elle s'est fait égorger? Non, c'est une petite araignée qui était là, la pauvre mesquine. D'accord? Bon, il y a des formes, ça c'est des choses basiques, mais plus profondément, comme on a déjà parlé souvent, peut-être on en parlera aussi. Shalom Bayit, nécessaire, comment faire pour que la maison fonctionne bien? Les genres de discours qu'on doit porter, parce qu'il y a des problèmes, comment on les traite? Bon, il faut expliquer, comprendre. Troisième chose, tout à fait essentielle, c'est les lois de pudeur, sont en fait les relations, les lois qui concernent la relation sexuelle elle-même. Il y a des lois, la Torah, elle gère ça, comment, quand, pourquoi, etc. Et quatrièmement, la chose que presque personne ne fait, et ça va être mon sujet ici. Je ne vais pas traiter ni de Nida, ce n'est pas pour Internet, ni pour vous non plus, encore moins de Shalom Bayit, ça peut être une autre fois, encore moins des lois sexuelles, mais par contre, il y a un sujet qui est relativement rapide à traiter, mais où l'ignorance est reine, c'est la cérémonie du mariage. Qu'est-ce qui se passe au mariage? On est rentré, on était deux célibataires, on sort deux mariés. Qu'est-ce qui se passe? On a mis une bague et c'est tout. Des rabbins viennent, il y a du vin, il y a des brachot, il y a une krupa. Il y a des lois qui gèrent cela. Il y a aussi des raisons qui gèrent cela. Et dans ma vie, j'ai vu pas mal de krupot, et je peux vous dire que j'ai vu des choses aberrantes. Complètement aberrante, où il arrive souvent qu'il y a un grand doute si les mariés sont mariés. Des fois, ils sont mariés, mais ils sont passés à côté de toute la cérémonie parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire, et personne ne leur a dit. Donc, on va faire une petite formation ici, qui, je pense, sera très utile pour vous tous, le plus tôt possible, ceux qui en ont besoin, Bedrat Hashem. Alors, on va séparer aussi ce cours-là en 4 parties. Première partie, ça va être avant la choupa, avant la cérémonie. Avant, ça veut dire les jours avant, le jour du mariage, jusqu'au moment où on rentre sous la choupa, sous le dénuptial. Deuxième partie, ça sera ce qu'on appelle les kiddushin. Kiddushin, qu'est-ce que c'est? C'est l'acte qui va faire que la femme devient une femme interdite aux autres hommes, et elle est liée, elle devient femme de son mari. Ça se fait par le don de la bague. On appelle ça kiddushin. Le mot sacré, c'est on consacre cette femme. Tu mets consacré, ça veut dire sacré différent. Sacré signifie différent. Tu es différent des autres, tu m'appartiens. Et je t'appartiens aussi. Nous sommes liés. à l'époque, on faisait les kiddushin et la femme rentrait habiter chez son père, dans sa famille, encore 6 mois à 1 an. Se préparer au vrai mariage. Et après 6 mois, 1 an, elle venait habiter chez son mari, et cette période était appelée fiancée. Aujourd'hui, ce qu'on appelle fiancée, ce n'est pas du tout cela. Fiancée, c'est-à-dire qu'on a pris une décision officielle, on a officialisé le fait qu'on va se marier bientôt. Ou avec une petite cérémonie, ou sans cérémonie, ou un énorme fiançailles, d'accord, peu importe. Mais ça n'a aucune valeur au niveau de la loi. Aucune valeur. Ashkenazim, oui, chez nos frères Ashkenaz, lorsqu'il y a un fiançailles, après, on a cassé un fiançailles, alors c'est déjà, c'est un peu plus délicat. Chez Sfaradim, il n'y a aucun problème. Au niveau de casser, s'il y a besoin, bien sûr. Mais le titre de fiancé, ça a été aujourd'hui emprunté pour dire la période qui est avant le mariage. À l'époque, ce qu'on appelle en Torah une me'urasa, c'est une femme qui est fiancée, c'est en fait, elle est déjà complètement, elle a eu la bague, elle appartient, elle est femme, si elle va avec un autre, elle est adultère. Si on change d'avis, il faut lui donner un guet, un acte de divorce, bien que le mariage n'a pas été consommé. Donc à l'époque, il y avait Kiddushin, il y avait une période de temps, et après, il y avait ce qu'on appelle Nisuin. Nisuin, c'est le mariage proprement dit, c'est elle vient habiter chez son père, chez son mari, et qui son père, elle va chez son mari. Et là, on fait Sheva Brachot, on fait 7 brachot, et 7 jours de festin, et la fête, etc., etc. Aujourd'hui, on fait tout ensemble. Kiddushin, et juste après, Nisuin. Kiddushin qu'on va traduire par consécration nuptiale, fiançailles, mais c'est la consécration nuptiale. Nisuin, le mariage proprement dit. Pour éviter le cas d'une femme qui est fiancée d'après le droit qu'on met coup d'échette, n'est pas encore mariée avec son mari, le mariage n'a pas été consommé, elle est appelée Nara Mourassa. Et son statut est beaucoup plus grave, c'est une relation qu'une femme mariée. Les deux, c'est interdit, les deux sont adultères, mais c'est beaucoup plus grave, si elle n'a pas encore, le mariage n'a pas été consommé, c'est avec un autre homme. Donc, avec le temps, la coutume du peuple d'Israël était qu'on commence à faire les deux ensemble. Et comme ça, on fait aujourd'hui. Pour séparer les deux, on fait une petite séparation. On aurait pu aller boire un pot, on aurait pu aller jouer, faire une partie de bridge ou un peu de sauter à la corde. Qu'est-ce qu'on fait en attendant entre les deux? Aujourd'hui, le minhag d'Israël est aussi ainsi, c'est on lit la ketouba. La ketouba, c'est le contrat de mariage, on va en parler aussi, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment. On le lit pour bien séparer, pour montrer que c'est deux choses différentes. On va faire Boré Pré à Geffen, on va faire la bénédiction sur le vin au Kiddushin. On refait de nouveau Boré Pré à Geffen, la bénédiction sur le vin au Nisuin. Comment c'est qu'on fait maintenant deux fois une bénédiction sur un verre de vin alors qu'il y a quelques minutes qui séparent les deux? On exprime bien par le fait qu'on met la Ktouba au milieu, qu'on sépare. Ce sont deux choses séparées. Donc en fait, il y aura 4 temps. Il y a l'avant-mariage. Il y a, quand on rentre déjà sous la Choupa, c'est là on aura le Kiddushin. Après, lecture de la Ktouba. Et pour finir, Nisuin, le mariage proprement dit. Ça va être notre sujet, comme ça on va séparer en 4 parties. Alors on commence la première partie, l'avant-mariage. L'avant-mariage, donc c'est la préparation des sujets que j'ai traités. Nida, Shalom Bayit, Tzniut, loi de pudeur, donc la relation sexuelle, et ce qu'on est en train de dire maintenant. Il faut apprendre cela. Ensuite, il faut s'arranger à finir le plus tôt possible tous les millions, et c'est à peu près le nombre de choses qu'il faut gérer, le million de détails qu'il faut gérer pour un mariage. Essayer de finir cela pour ne pas arriver au mariage en catastrophe. Mariage est une chose qui est très très grande. Le jour du mariage, il y a 3 jours qui sont importants dans la vie de quelqu'un. Sa naissance, sa mort et son mariage. Le jour du mariage, si on fait tchouva, on nous pardonne tous nos péchés. Donc on ne peut pas rentrer comme ça, tralala, de façon un peu inopinée, au jour du mariage. C'est une chose qui doit se préparer comme il faut. On va en parler qui, quoi, comment et pourquoi. Mais il est certain que le jour du mariage, l'avant-mariage, on doit être déjà complètement libéré de tous les ennuis matériels et les millions d'ennuis qu'il y a avant un mariage. Donc on va essayer de tout préparer cela bien avant. Savoir aussi que la Gemara elle dit en ktouba belo tigra. Tu n'as pas de ktouba, donc de contrat de mariage, c'est-à-dire peut-on pas de mariage sans tigra, sans une bagarre. Normalement, si tout va bien, il y a toujours une friction à quelque chose, ou entre les familles, ou entre Atan la Kala, ou entre la belle-mère, c'est normal, normal. La Gemara dit tu n'as pas de ktouba sans bagarre. Donc si la bagarre ne vient pas, il faut s'inquiéter. Pas trop, Baouch Hashem, il n'y en a pas eu. Mais s'il y en a, il y a une bagarre qui vient, surtout pas s'inquiéter, tout est normal, dans les proportions normales, bien sûr. Ensuite, savoir, c'est marqué dans la Gemara aussi, cacher zivugan kekriat yamsouf. Le zivug, l'union d'un homme et une femme, c'est dur comme la traversée de la mer Rouge. Ce qu'on nous vend sur les pubs ou dans les films, je l'ai vu, elle m'a vu, un courant a passé et tout à coup il y a eu un déclic, c'est du roman. Ça n'existe pas, et si ça existe, il faut se méfier. Parce que comme le déclic il vient, aussi par déclic, des fois ça part. Tout ce qui vient facilement, part facilement. Le mariage, c'est une construction. Il est impossible quand tu rencontres ta femme, et même quand tu es déjà fiancé, qu'il n'y a pas des hésitations. Comprenez qu'un mariage, qu'est-ce que c'est? C'est la décision la plus, quand je dois prendre la décision, est-ce que ça va être ma femme, oui ou non, et réciproquement, je prends la décision la plus grave de ma vie. C'est pas acheter une voiture, c'est pas acheter un appartement, c'est me lier avec quelqu'un pour toute ma vie. On est ensemble, olamazé, olamaba, avec des enfants, et on ne peut pas se séparer. Se séparer, c'est la destruction de tout. Maintenant, il y a un problème. Tu ne pourras jamais savoir qui est ta femme, ni elle pour savoir qui tu es, que maximum 5% de ce que tu es. Elle se raconte tout
avant le mariage.
Avant le mariage. D'abord, nous, avant, après mariage, nous sommes différents. Non seulement au niveau mystique, parce qu'il y a des passages d'âme au niveau de, quand on fait les kiddushin, quand on se marie, mais surtout que, avant le mariage, j'ai ma vie, je suis comme je suis, si quelqu'un me dérange, je décroche, je pars autre part. J'ai quelqu'un dans une chambre maintenant, ici à la yeshiva, il ronfle. Bon. Ou je dors profondément, ça me dérange pas. Ou ça me dérange, ben, je change de chambre. Avec un exemple grossier, d'accord, je me marie avec ma femme, elle ronfle ou je ronfle, d'accord, il n'y a pas question de changer de chambre. C'est un exemple bébête.
C'est l'importance
quand même. Hein, sa petite importance. Mais ça ne reste surtout pas là, c'est beaucoup plus profonde. Que dans ma vie, maintenant, quand je suis en friction avec quelqu'un, je peux me séparer et aller autre part. Premièrement. Deuxièmement, la friction avec ce quelqu'un, elle est toujours au niveau extérieur, parce que je ne suis pas trop vulnérable à l'autre. Et à sa vie, j'ai ma vie, on n'est pas marié. Sa femme, normalement, elle te connaît par cœur au bout d'un moment, et toi aussi tu la connais par cœur. Ça veut dire que nous sommes extrêmement sensibles l'un à l'autre. Et l'un, quand il dit une chose, ça va dans les profondeurs de l'autre. Nous sommes extrêmement vulnérables, sensibles et différents. La différence, elle va forcément occasionner des frictions. Ces frictions font mal, parce qu'on est proche. Une friction de deux personnes qui sont éloignées, ça ne fait pas de mal, parce que ça ne touche pas profondément. Une friction de deux personnes qui sont proches, ça touche profondément. Maintenant, vu que moi, on me touche, ma réaction, elle est très puissante. Une chose qui me dérange au plus profond de moi, j'ai une réaction qui est puissante. Donc, l'homme et la femme, après le mariage, tout à coup, sont confrontés à des épreuves de contenir ces mauvais traits de caractère qu'ils n'ont jamais eu de leur vie. La colère, l'égoïsme, la jalousie, l'envie. On n'a jamais eu ça avant le mariage, parce qu'on n'a jamais été confronté à une proximité aussi grande, qui nous oblige à des sacrifices aussi grands.
On ne peut pas dire qu'on les avait, mais on n'avait pas l'occasion.
Parce que vous,
on n'avait pas les travailler, puisqu'on n'avait pas l'occasion
de les avait, de façon latente.
Il y avait la nécessité de les travailler.
Elles étaient de façon latente. On ne savait pas. Je ne sais jamais à quel point je suis égoïste avant que ma femme le dise. Ou pleure, d'accord. Elle m'a parlé, elle m'a pleuré. Il faut se comprendre tout seul. Donc, je sais maintenant que je prends la décision la plus grave de ma vie, sachant que je détiens des tenants et aboutissants que 5%. 95% sont complètement inconnus. Prendre une décision aussi grave, lorsque je ne connais que 5% des tenants et aboutissants, c'est de la folie pure. Il faut être fou. Alors, si on est jeune, de 20 à 22, 23, 24, on est encore assez inconscient pour se marier. Mazal tov, on te dit. Mais quand les années commencent à passer, et on se du poing dans la tête, on devient plus conscient. Il faut être sacrément inconscient pour faire ce pas. Donc, c'est très dur. Donc, si on le fait, et on doit le faire, ça sera dur. C'est dur comme traverser la mer Rouge. Pourquoi c'est l'eau comme traversée de la mer rouge? Les gens pensent parce qu'il faut un miracle comme j'ai trouvé ma femme, c'est comme un miracle. C'est vrai que c'est un grand miracle. Mais ce n'est pas ça le vrai sens, à mon avis. C'est quoi l'histoire de la mer rouge? Bnei Israël arrive au bord de la mer rouge. Le soir tombe. J'étais au bord de la mer une fois la nuit. La nuit, elle est noire. La mer, elle est noire. Elle n'est pas bleue, c'est limpide, elle est noire. Chazal dit qu'il y avait des vagues énormes de 10 mètres de haut. Tu as des vagues énormes, noires. On te dit, on a reçu un ordre, on va en avant. En plus, c'était au mois d'avril, la mer, elle est froide. Elle est noire. On rentrait tout habillé avec nos enfants. Enfin, on ne peut pas passer. On n'ose pas passer. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On reste ici. On est bien au bord de la plage. On ne peut pas. L'armée égyptienne arrive derrière. Pharaon. Le monde concentrationnaire Auschwitz égyptien de l'époque. Rester, on ne peut pas. Aller de l'avant, on ne peut pas non plus. On est tiraillé. J'y vais pas. J'y vais pas. Mais sur le Shidour, c'est ça. J'y vais pas. J'y vais pas. Et tu rentres, parce que quand c'est le bon numéro, tu commences à y aller, c'est bon. Tu donnes la bague de fiançailles, et là, tout à coup, ça commence à travailler encore. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a toutes sortes. Il y en a qui, chez qui ça passe plus ou moins facilement. D'autres chez qui la grande crise est après le fiançailles. D'expérience, chez beaucoup de gens, 3 semaines environ avant le mariage, c'est le pic. D'autres, ça passe. Il y a de tout. Mais il faut savoir que c'est normal. Bien sûr, pas dire c'est normal, donc je ne m'inquiète pas. Non, s'il y a vraiment des choses qui sont du domaine rationnel, il y a un problème, il faut le traiter, il faut voir. Peut-être des fois, on est obligé d'arrêter le processus de mariage, on arrête tout. Mais très souvent, il n'y a rien de rationnel, c'est que l'imagination. On ne sait pas, on a peur, on avait un petit sourire, ça n'allait pas, c'est pas tout comme je croyais, je sens pas le même engouement du début, c'est normal. Tu paniques. Donc comment tu veux être joyeux? T'as peur d'aller la voir carrément. Je dis des cas. C'est pas chez tout le monde comme ça. Chez beaucoup de gens, bon, Hachem, on est très heureux. Mais des fois, les types paniquent totalement d'aller voir leur fiancé. Parce que, comment je peux faire un... C'est comme tu... On dit, voilà, jette-toi à l'eau. Alors un jeune, il jette à l'eau. Un type un peu plus âgé, laissez-moi goûter un peu. Rien. Elle est bonne. C'est pas... C'est terrible. Donc, il faut savoir qu'il est tout à fait normal que dans la période qui est avant le mariage, il y a des grosses hésitations. Est-ce qu'on va prendre au sérieux, oui ou non? Il suffit simplement d'analyser. Est-ce qu'elles proviennent de l'imagination, qui va grandir, qui va faire des films à partir d'un petit détail? Il y a un petit détail de rien. Elle m'a dit comme si, ou j'ai pas tellement aimé ça, mais c'est rien, c'est ch'touillotte. Ou bien, non, il y a une chose qui est vraiment, on s'est rendu compte que, je sais pas moi... Problème de santé grave, on n'avait pas dit, ou des choses graves. Et dans ce cas-là, effectivement, alors il faudra aviser. Mais le critère de décision est le suivant. Est-ce que ça provient de la raison ou l'imagination qui va me donner une argumentation soi-disant raisonnable, mais qu'on peut facilement, si on est vraiment raisonnable, arriver à déceler, que ça ne provient pas de la raison, mais de l'imagination. Tov, mazal tov, on arrive au jour du mariage. C'est un très grand jour, il faut s'y préparer. Le minhag de nos frères Ashkenaz, c'est pas minhag et Sfaradim, mais il y en a qui le font aussi, est de jeûner. Pourquoi jeûner? Parce que ce jour-là, il est marqué, c'est marqué dans le traité Ketubot, dans la Gemara, on nous pardonne nos péchés. Attends, il n'y a pas de choses magiques. On ne pardonne pas les péchés comme ça, comme Yom Kippour, qui est un jour de pardon, mais il y a une condition, tchouva. On nous pardonne que si on a fait tchouva. Tchouva, ça veut donc reconnaître qu'on a péché, le dire à Dieu, faire un vidouille, regretter et prendre ce soin de changer. Donc c'est un jour de bilan personnel. C'est un jour où je regarde où je suis, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux, vers où je vais. Un jour de bilan. Et il est bien. Un jour où on va me pardonner tous mes péchés, je jeûne. Pour expier mieux. Jeûner sans faire tchouva, ça ne sert à rien. Se marier en croyant que ça va pardonner mes péchés sans faire tchouva, ça ne sert à rien non plus. Donc la tchouva est nécessaire, c'est l'essentiel. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce minhag, cette coutume de jeûner existe. Donc une, comme j'ai dit, c'est le fait que on est le jour qui peut pardonner nos péchés, donc on jeûne. Deuxième raison, c'est que sous la choupa, viennent les âmes de nos ancêtres. Les parents sont décédés, les parents, sinon les grands-parents, oncles et tantes. Il y a même aussi des fois les tzadikim qui sont de notre même source d'âme. Il y a des sources d'âme, d'accord, des sortes de, c'est comme si tu veux, des grappes de raisin. Tu as des âmes qui sont de la même grappe. Et toujours dans chaque grappe, tu as un grand tzadik. Il est de ton appel, de ta racine d'âme. Il vient aussi, il peut venir sous la choupa. Il y a beaucoup de shrina, il y a beaucoup de sainteté sous la choupa. C'est pour ça que on va encore le rappeler, mais il est obligatoire d'après la halakha de la loi que tout le monde se lève. La shrina, Dieu vient, la présence de Dieu vient sous la choupa. Donc il est obligatoire, pas question de rester assis comme il y a dans les, je sais pas où. D'accord, d'après la halakha, tout le monde se lève du début à la fin de la choupa. Ok. Maintenant, les parents vont venir, les grands-parents, les ancêtres, les tzadiks, et tu vois, espèce de crétin, plein de péchés. Tu te maries maintenant à 20 ans, 25 ans, t'as fait le corneau toute ta vie. Tu te craches dessus. En deux mots, ça la fout mal. Donc, pour pas que ce soit comme ça, on jeûne ce jour-ci, on vient en état d'humilité, de jeûne, de « c'est vrai, j'ai péché, je regrette ce que j'ai fait », et là, alors tous les ancêtres sont heureux de venir nous bénir sous la choupa, avec la shrina aussi qui vient. Troisième raison, ramenons les poskim aussi. Évidemment, le mariage, tout est beau. Et après, hélas, c'est pas toujours aussi beau. Il faut travailler. L'homme et la femme sont différents. L'homme peut tenter de dire, je l'ai pas connu comme ça. Il ne fallait pas qu'elle ronflait. Et puis sa belle-mère, tu as vu un peu de à qui j'ai affaire, c'est terrible. Et puis elle est toujours en retard, elle est capricieuse, pas toi. Eh mon vieux, tu t'es engagé. Non mais quand je me suis engagé, vous savez, que la choupa, j'étais complètement rond. On a vendu du whisky, de la vodka, encore un petit coup, on a trinqué avec les copains, je ne sais pas ce que je faisais. Si je savais, sous la choupa, j'avais vu la belle-mère, j'avais vu, mais j'étais tellement rond que j'ai marié comme ça, sa fille, sans, j'aurais jamais, je me suis marié. Pour éviter ce genre de problème, alors, de nouveau, c'est pas obligatoire, c'est le minhag, une coutume d'Ashkenazim, les Sfaradim ne le font pas, mais s'ils veulent, ils peuvent le faire. On jeûne, ce jour-ci, t'as pas d'excuse là, ni vodka, ni trinqué, ni ça. D'après ça, après la choupa, il peut boire tant qu'il veut, il n'y a pas de problème. Donc, troisième raison, pour pas qu'ils disent après qu'il était sous, ou pas pour qu'il soit vraiment sous, d'accord? Non seulement qu'ils disent, mais des fois, il est vraiment sous. Quatrième et dernière raison, comme je viens d'expliquer, il n'y a pas de ktouba sans bagarre. Alors, là, vos mariages, Baruch HaShem, tout est très bien jusqu'à maintenant, alors on a peur que la bagarre, elle éclate après. Alors qu'est-ce qu'on fait? On jeûne, pour que déjà le décret, le mauvais décret de souffrance, il y a un peu de souffrance qui doit arriver, on peut pas accéder à une chose qui est bonne, qui est bien, sans qu'il y ait un peu d'effort à donner, un peu de souffrance.
C'est obligatoire qu'il y ait des histoires.
Je te dis, si jamais jusqu'au jour de mariage, il n'y a pas eu de bagarre, faut pas s'inquiéter, pas au Hachem. Mais s'il y a eu des bagarres, faut pas s'inquiéter non plus. Pardon?
Il y a toujours des tensions.
Il faut savoir qu'une chose qui a de la valeur s'achète avec des efforts. Si c'est sans effort, ça vaut rien. Il n'y a pas de cadeau gratuit, ça n'existe pas dans le monde de la réalité, comme dans la réalité physique. Quelqu'un qui monte les escaliers, il fait un effort. Tu es à vélo, tu as une montée, tu fais des efforts. Oui, mais tu montes. Tu peines, mais en haut, tu es au haut de la montagne, tu as tout le panorama, tu es là-haut. Quand tu descends, c'est facile. Et tu descends, tu es tout en bas. En réalité physique, c'est comme ça. À plus forte raison dans la réalité métaphysique. Tu ne peux pas accéder à des degrés, monter sans qu'il y ait un effort fourni. Effort signifie petit effort, grand effort, très grand effort signifie souffrance. Des fois, l'effort se traduit par une souffrance. Par exemple, c'est marqué dans les brachot. Trois choses s'achètent avec souffrance. La terre d'Israël, la Torah et Olam Haba. C'est des choses qui ont une qualité éternelle. C'est une vraie réalité bonne. Pas terre d'Israël, simplement, c'est pas terre d'Israël pour venir ici manger des falafels, d'accord? La terre d'Israël, c'est la terre sainte. Quelqu'un qui accède ici en terre sainte et qui fait une vraie alia, c'est une montée, pas qui vient ici et il commence à quitter la Torah. Il monte en Israël, il monte, virgule, ou en Israël, mais il monte vers Dieu en Israël. Ça, c'est certain qu'il accède à des degrés qui sont très hauts, et donc ça ne peut pas se passer sans qu'il y ait aussi des efforts à fournir, ce qu'on traduit par souffrance. Petite souffrance qu'on espère, ou des fois, hélas, grande souffrance. Idem mariage. Donc on se méfie qu'il y aura des souffrances avant le mariage, et pour ne pas faire passer ces souffrances-là, pas dans une bagarre terrible avec sa fiancée, on jeûne. Pour la fête de jeûner, en quelque sorte, tu as souffert, et la souffrance qui devait être là nécessairement, elle se traduit dans la souffrance du jeûne.
On n'a pas le droit de se faire souffrir pourtant.
Non, non, non. Mais le jeûne, c'est une chose qui est bien. C'est pas une souffrance, c'est un... c'est faire payer la facture de la souffrance en douceur. On appelle ça des dinim, des lois de rigueur qui sont adoucies par les chassadim. Tu l'as par le fait de jeûner, tu adoucis la souffrance, tu adoucis.
Là, avec ces quatre
raisons,
crois-nous, on ne jeûne pas alors.
Alors, on va arriver à cela. Il y a quand même un petit problème. Quand on jeûne, on arrive assez faible. Et aussi, des fois, des gens deviennent irascibles quand ils jeûnent. Donc, ils peuvent forcément se mettre en colère au jour de son mariage, ce qui est, c'est vraiment terrible. Le jour de la colère, quand on se met en... le jour du mariage, la shrina vient. Donc tu reçois maintenant des, au niveau de la sainteté qu'il y a, donc, au niveau de l'âme, elle se met à éclairer énormément. Quand quelqu'un s'énerve, son âme, elle part. La shrina, elle part, on est branché à voie d'attente. On est branché vraiment aux côtés de l'idolâtrie. C'est marqué, le Talmud dit, tout celui qui se met en colère, mais très en colère, c'est-à-dire qu'il déchire ses habits, ou il casse des ustensiles, ou il dilapide son argent à cause de sa colère, qu'il soit à tes yeux comme s'il avait la voie d'attente, comme s'il fait de l'idolâtrie. La Kabbalah dit, c'est pas comme si il est dans l'idolâtrie. Il est branché, il nourrit actuellement, avec son énergie, il nourrit le mal, les forces du mal. Ce jour où tu es plus, un des jours où tu es plus branché maintenant que Yom Kippour, avec la Kedusha, avec la sainteté. Et... Donc il y a un problème. Et il y a un palliatif. Ce que nous conseillons aux gens, l'essentiel c'est la tchouva. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arranger de tout finir tous les détails qu'il y a, comme j'ai dit, avant le mariage, avant la journée du mariage. Ce dernier jour, le matin, on va au mikvé. On va parler encore de l'importance du mikvé. On se purifie, on étudie la Torah, on fait tchouva, et on fait un deuil, on fait un jeûne de la parole. Le jeûne de la parole, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. Ça n'affaiblit pas. Tu ne deviens pas irascible à cause de cela. Tu n'auras aucune bêtise, tu ne vas pas perdre ton temps à faire des blagues, à partir de n'importe quoi. Ça, au contraire, ça t'oblige d'être avec toi-même, avec Dieu, à faire de l'introspection, à faire un bilan intérieur. Tu feras un jeûne de la parole. Au niveau des post-kim, ça a beaucoup, beaucoup de valeur, le fait de faire un jeûne de la parole. Donc, c'est un bon palliatif à cela. Bien sûr, si maintenant, il y a nécessité d'une chose d'urgence, et il faut que tu parles au téléphone maintenant avec, je ne sais pas moi, ta future belle-mère, c'est pas intelligent non plus, d'accord? C'est vraiment... Parlons pas de... Voilà. Faisons un jeûne des paroles bêtes. Parlons que ce qui est le plus intelligent, c'est-à-dire Torah, Yirat Shamayim. Comme tu l'as bien dit, Daniel, dans le traité Ketubot, c'est marqué comme ça, que Vayafek Ratzon Me'Hashem. Vayafek signifie, il a fait sortir Ratzon de l'apaisement de Dieu. C'est qui? C'est le jour du mariage. Comme si on apaise Dieu. De là, on apprend, Chazal l'ont dit, le jour du mariage, Vayafek, ça veut dire le mot pkak, pak, c'est bouchon, pour que Kinlo kol avonotav. Le jour du mariage, on bouche tous les péchés de la personne. C'est pas marqué qu'on lui pardonne, en tout cas dans la Gemara. Dans la Gemara, c'est marqué, voilà, dans la Gemara de Bavli, notre Gemara, c'est marqué qu'on lui bouche tous ses péchés. Donc quoi? Avant le mariage, je peux dire, écoute, c'est marqué, celui qui est sans femme, il est sans bracha, sans muraille, sans bracha, sans bénédiction, sans muraille, sans joie, sans Torah. Je suis un pauvre type. Donc j'ai fait des erreurs, mais quelque part, j'ai des circonstances atténuantes. On peut dire, ok, j'entends. On va voir. Maintenant, on te donne une femme, on te marie. Et on bouche tes péchés, ils ne peuvent plus rien dire. Tous les anges accusateurs que tu as créés par tes péchés, rideau, ils se taisent. Et on te regarde à l'œuvre. C'est effectivement, tu as fait tchouva, tu as changé, maintenant que tu as une femme, ah, tu fais plus de bêtises. C'est-à-dire, alors eux, on les jette à la poubelle, terminé. Mais si jamais mon cher monsieur est resté le même, alors on ouvre le bouchon et il recommence à rouler de plus belle. Sauf qu'il ne sait pas qu'on pardonne les péchés et c'est tout. On bouche les péchés. Et à nous d'agir en fonction pour les boucher une fois pour toutes. D'accord? On veut les boucher et plus les revoir jamais. Ça dépend de quoi? D'une tchouva qui est complète. Donc l'essentiel, c'est pas le jeûne, l'essentiel c'est la tchouva. Faire attention de ne pas arriver non plus au mariage. Des fois quand on fait trop de tchouva, on fait son bilan personnel, on voit qu'on a fait tellement de bêtises, on arrive au mariage tête de mort. Non, bah au Hachem, il faut venir aussi heureux au mariage. C'est la tchouva, d'un côté, c'est une tristesse du passé mal qu'on a fait, mais un grand bonheur de regretter cela, de sentir maintenant la proximité de Dieu. C'est ce degré qu'il faut accéder de proximité de Dieu. C'est un moment très intense, le mariage très saint. Cette proximité que tu de Dieu que tu prépares durant toute la journée, elle porte son fruit sous la choupa, sous le dé nuptial. Artam Sofer écrit que le jour du mariage, si effectivement notre Atan s'est comporté ainsi et s'y sanctifie et vient à la Shrina, il arrive à un pouvoir de sainteté que comme les grands de la génération, comme les grands tzadikim de la génération. Et qu'ils ont un pouvoir de brachot tellement très grand à ce moment-là. Avraham Yosef, c'était dans les années 70, il est très malade des yeux. Jusqu'à aujourd'hui, il a des grosses lunettes de soleil. Ce n'est pas parce qu'il y a du soleil, c'est parce qu'il a un problème dans les yeux. À l'époque, il essaie d'aller à beaucoup de mariages pour faire donc celui qui était. Messader Kidouchi, celui qui faisait la cérémonie du mariage. Mais il demandait toujours au mari, bénis-moi, au marié, bénis-moi pour mes yeux. Parce qu'effectivement, le mari, il a une grande. Le nouveau Khatan, notre Khatan, il a un grand pouvoir, la Kala aussi, un grand pouvoir de bénédiction. Alors d'un côté, oui. Mais d'un côté, il faut faire attention. Que des fois, le Khatan, c'est le jour du mariage, et devant lui, il y a une file maintenant de gens. Et chacun, vas-y, fait les bénédictions, et il devient le grand Mekouba, le Kabbaliste, etc. C'est pas ça. Ok, il a un pouvoir, mais il ne faut pas non plus que cette coutume de se faire bénir par le mariage, pas par le mari, elle casse tout le mariage. Il est en train de danser, donc quelqu'un vient, là, bénis-moi. Et alors après, il veut manger quelque chose, bénis-moi. Il devient le pauvre misken. D'accord? Donc, pas exagérer non plus dans ce sens-là, pas trop en profiter. L'homme et la femme, en se mariant, sont ce qu'on appelle palgagoufa, sont un demi-être, un demi-corps. Et là, il y a une union. Partout où il y a union, Dieu vient s'unir aussi. Dieu est un. Partout où il y a union, où il y a paix, il y a le bracha. Lo, Hashem, lo matza kli marzik shalom yoter, marzik bracha yoter man shalom. Dieu n'a pas vu d'ustensile qui reçoit mieux la bracha. La bracha, c'est donc la présence divine. Présence divine, la bracha, la bénédiction, ça veut dire un flux d'abondance, de bien-être, que le shalom. Le shalom, c'est la base de tout. Or là, on est en train de faire la plus grande action de shalom possible, imaginable. On va unir un homme et une femme. Deux êtres complètement séparés, aux antipodes, on les unit. On les unit complètement. C'est-à-dire, on les unit au niveau des âmes qu'on va voir, et au niveau du corps aussi, la nuit du mariage. Alors, comment est-ce qu'on fait pour prendre sur soi le jeûne? Un jeûne, pour être considéré comme un jeûne d'après la Torah, doit être pris sur soi la veille, si possible, dans la prière de Mincha. Bédéavad, a posteriori, si on est oublié pendant Mincha, aussi c'est valable après Mincha, tant que la nuit n'est pas tombée, tant qu'il n'y a pas le coucher du soleil. A priori, durant la prière de Mincha, le mieux c'est dans Elokai Notzor, la fin de la prière, après qu'on ait Baruchat Hashem Verachamo Israël Bachalom, on dit Oulah Sonomafi, Behigom Lefanech Hashem Tsur Vegorali. Là, une partie pour Elokai Notzor, pour les prières personnelles. Il y a un Noussar, il y a une formule qui est dans les Sidorim. Comment on prend sur soi un jeûne? On dit Dieu, je suis Blineder, Altnai, en condition, par condition, en jeûne devant toi, si quelqu'un ne sait pas le dire en hébreu, il peut le dire en français, en jeûne devant toi, demain, depuis, alors on dit depuis l'eau, on dira depuis pas le lever du soleil, depuis le lever de l'aube, c'est 1h12 avant le lever du soleil, jusqu'à, il faut dire, jusqu'à la choupa, c'est durant le jour, ou si c'est durant la nuit, jusqu'à la sortie des étoiles, journée complète. Si on n'a pas dit cela pendant Mincha ou après Mincha, alors le jeûne n'est pas considéré comme valable. C'est qu'on sera quand même peut-être bien de jeûner ceux qui veulent, mais ça n'a pas aussi la plus grande, ça n'a pas la même valeur. Maintenant, on dira aussi, donc à condition, on ne dit pas je suis en jeûne à condition, je suis à condition en jeûne. Parce que si tu dis je suis en jeûne, terminé, tu as déjà dit. Je suis à condition en jeûne, et je rajoute une condition. Si jamais je ne pourrais pas jeûner, ou je ne voudrais pas, je dirais, alors dans les formules c'est marqué, je dirais le chapitre télémisement la chambre et le harsam, on peut dire n'importe quoi comme condition, et là je pourrais manger et boire tant que je veux et je n'aurai aucun péché par cela. Je demande Dieu de me dire demain jeûner comme il se doit et reçois bien mon jeûne demain. Non, Tané Dibour, pas besoin. Si on fait une Tané, donc un jeûne de la parole, pas besoin de le prendre à l'avance. Seulement si on fait un jeûne de nourriture. Maintenant, est-ce qu'on peut se lever la nuit avant le lever de l'aube pour manger et boire? Alors, c'est possible, mais à condition qu'on dise avant d'aller dormir, par le fait d'aller dormir, je ne prends pas sur moi le jeûne. Je pourrai manger et boire tant que je veux, même après mon sommeil, tant que le jour ne sera pas levé. Néanmoins, même si on fait cette condition, d'après le Zohar, d'après la Kabbalah, c'est très mauvais de faire cela. Ce n'est pas bien de manger une fois qu'on a dormi avant de faire la prière de Shachrit. Donc, à éviter, si possible. Peut-être, si c'est boire un thé, boire un café ou un petit quelque chose, ça va, on parle, mais quelqu'un se lève à 4h du matin et il mange un bon repas, comme ça, il mange bien, histoire de tenir le jeûne, ça, c'est déconseillé d'après la Kabbalah. Mieux vaut peut-être, même à ce titre, ne pas jeûner du tout plutôt que de faire cela.
Pourquoi, quel est le problème du...
Abi Kabbalah, c'est d'après les raisons kabbalistiques. Ok, on va s'arrêter pour ici. On continuera avec Mishra Hachem la prochaine fois, deuxième leçon.